France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec un homme indémodable qui vient de couvrir sa 11e élection présidentielle. Autant dire qu'il a un certain recul pour analyser la situation politique d'aujourd'hui. Le journaliste et éditorialiste Alain Duhamel se définit d'ailleurs lui-même comme un mémorialiste de l'époque. Dans ces conditions, qui mieux que lui pour nous accompagner ce soir à la veille de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron pour un second mandat et à l'issue d'une semaine très politique marquée par le retour de l'union de la gauche comme autrefois. Enfin, pas tout à fait. Cette fois, c'est plutôt à front renversé.
François Mitterrand n'a signé le programme commun que comme un moyen d'affaiblir le Parti communiste français.
Alain Duhamel, qui était face à Georges Marchais ce jour-là, nous remettra en mémoire quelques épisodes savoureux de l'histoire politique dont il a été non seulement le témoin, mais aussi l'acteur d'une certaine façon, avec des questions qui ont fait date, comme celle-ci.
Quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle ?
Pas simplement quand je me rase.
Voilà, celle-ci est collector, mais il y en a d'autres. Également au sommaire de cette émission, préparée par Adèle Domas et réalisée par Stéphane Combe, la chronique de Vincent Martini de l'Hebdo Le 1. Ce soir, justement, ces alliances qui se forment pour les législatives, car outre l'union de la gauche, on a aussi depuis hier, ensemble, derrière Emmanuel Macron, des coalitions gazeuses, nous dira Vincent Martini. À 19h20, au téléphone sonne, législative mode d'emploi, toutes les questions que vous vous posez sur cette élection, mode de scrutin, mandat des députés, travail parlementaire. Pour poser vos questions, le 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes, à Magdalena Hervada ainsi qu'à Philippe Duclos, Michel Bézikian et Clément Berman qui sont à la technique.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Votre connaissance de la vie politique va nous être bien utile ce soir pour comprendre ce qui se joue à la fois sur la scène du pouvoir mais aussi dans les coulisses. La semaine qu'on vient de passer a été quand même particulière, elle va rester dans les annales. Ça fait moins de 2 semaines qu'Emmanuel Macron a été réélu. La cérémonie d'investiture, ou plus de réinvestiture, je ne sais pas comment il faut dire, aura lieu demain. Et toute cette semaine, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été la vedette de ce qui s'est passé. Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs n'a pas tellement parlé cette semaine. Enfin, il a lancé les hostilités le soir du deuxième tour. Et puis ensuite, il y a eu dimanche dernier cette manifestation du premier où il a pris le pouvoir comme s'il était en meeting. Qu'est-ce que vous dites ? Bravo l'artiste, c'est bien joué ou pas ?
Ah bah oui, il a été très brillant, il faut reconnaître ce qu'il est. On sait très bien depuis longtemps que c'est le meilleur orateur politique français actuel. Peut-être le meilleur depuis François Mitterrand. Là, ce qu'on a vu, c'est que c'était en même temps un remarquable tacticien. Il a fait et réussi en moins de 2 semaines ce qui, auparavant, dans d'autres coalitions de gauche, avait pris des mois et des mois. Et il l'a fait au bon moment. Il avait refusé de faire la même chose il y a 5 ans. Cette fois-ci, il a pris l'initiative. Les circonstances s'y prêtaient, parce que la disproportion entre les résultats qu'il avait obtenus, 22%, et les résultats obtenus par les socialistes, les écologistes, les communistes et les trotskistes, faisait qu'il était le maître du jeu. Mais il a eu une façon de mener ça, qu'il faut bien le dire, c'est remarquable. Ça m'a assez fait penser à la façon dont, en 1971... François Mitterrand avait pris d'assaut le Parti Socialiste, SFIO, encore, qui devenait de s'appeler depuis peu le Parti Socialiste, par une sorte de raid surprise. Bah, c'est un petit peu ce qui vient de se passer.
Effectivement, raid surprise, vous pouvez le dire. Et peu de temps après, Georges Marchais avait tenu n'avait pas mâché ses mots à ce sujet. On va réécouter justement ce qu'il disait, c'était en 1980, on a entendu un extrait il y a quelques instants. Bah, c'était à votre micro, c'était, je crois, carte sur table, en oui. 1980. On va voir ce qu'il disait de cette union de la gauche et justement de l'attitude de François Mitterrand.
Dans la nuit même, nous avons signé le programme commun à, je crois, 2h du matin. 2h. Je vois que mes camarades disent 4h.
Enfin, il était tard.
4h du matin.
Ou tôt.
Qu'est-ce que veut François Mitterrand ? Il prend l'avion, il s'en va à Vienne devant l'International Socialiste. L'International Socialiste le critique. Il leur dit, mais rassurez-vous, mes amis, j'ai signé le programme commun pour prendre 3 millions de voix au Parti communiste français. Par conséquent, contrairement à ce qu'était l'engagement qui avait été pris entre le Parti Socialiste et nous, dans le constat que nous avions fait à la fin de 70, François Mitterrand n'a signé le programme commun que comme un moyen d'affaiblir le Parti communiste français.
Deux questions.
Et ce sera sa ligne constante contre laquelle nous allons devoir lutter de 1972 à 1977.
Alors, deux questions.
Et en 1977, j'en aurais terminé de ma démonstration, parce que là encore, il a dit une contre-vérité que vous n'avez pas relevée. Quand il a
deux
dit,
questions.
C'est Georges Marchais qui, en 1977, le premier, sur la question de politique extérieure, a remis
oui.
en cause le programme
oui,
commun.
Oui, c'est une question.
Eh bien, messieurs, c'est le 30... Le, non, il a, ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision, et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fais les valises, on rentre à Paris.
Magnifique.
Ah, il avait lui aussi beaucoup de talent, beaucoup de présence. Il était moins subtil que Jean-Luc Mélenchon et infiniment moins subtil que François Mitterrand. Mais il avait comme orateur une vraie puissance et puis il avait un don de la répartie qui l'a à la fois beaucoup servi et beaucoup desservi.
On entend que vous essayez vaguement de temps en temps de poser une question, d'en placer une avec Jean-Pierre Elkabbach, vous n'y arrivez pas vraiment.
Ça, avec Georges Marchais, de toute façon... Bon, on ne s'entendait pas mal quand on le voyait en privé. Mais dès qu'il était en public, il utilisait la tactique du bulldozer. Et si jamais on l'interrompait, il disait « naturellement, vous êtes des bourgeois, naturellement, vous êtes contre moi, etc. » moyennant quoi, il était enchanté de venir à l'émission, et si ça faisait 6 mois qu'on ne l'avait pas appelé, il s'impatientait.
Bon alors, toujours est-il que cette union de la gauche, elle a connu des hauts et des bas, mais elle a tout de même amené François Mitterrand au pouvoir en 1981. Oui. Ça a quand même fini par se faire. Ça s'est fait à d'autres reprises, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'a bien dit lors de son meeting improvisé au milieu de la manifestation du 1er, il a fait référence au Front Populaire. Ça s'est fait quand même un certain nombre de fois, Alain Duhamel, dans
bien
l'histoire.
Bien entendu, mais ça s'est fait dans des conditions extrêmement différentes. Pour deux raisons. La première, c'est que, aussi bien en 36 qu'après la libération, que dans les années 70, qu'en 1981, parce qu'il y a eu des hauts et des bas hein, dans toutes ces périodes, c'est le leader réformiste qui était le chef incontesté. Et c'était le Parti Socialiste qui était le parti pivot. Bon, cette fois-ci, c'est le contraire. C'est Jean-Luc Mélenchon... Ce sont les insoumis, bon, qui sont, c'est tout à fait leur droit, on est en démocratie, ils ont des bonnes raisons, d'ailleurs, de ne pas forcément être contents de tout ce qui existe.
Et puis ils sont arrivés donc, quand même en troisième position
Oui, non, mais bien sûr, mais surtout, la différence, c'est qu'ils sont partisans d'une rupture, qu'ils le disent, hein, c'est avec ce qu'ils appellent le système. Bon, François Mitterrand, il faut reconnaître, si on veut être de bonne foi, comme il faut essayer de l'être, que aussi bien... En 71 qu'en 81, il était sur une position très à gauche. Hein, et c'était pas un réformiste mou. Et son programme n'était pas tellement différent de celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais les grandes différences, c'est un, que c'était lui qui commandait et que c'était les socialistes et que c'était pas du tout pareil. Et ce qui fait quand même une grande différence. Hein. Et deux, que, en ce qui concerne la politique extérieure et les institutions, il n'était pas question d'en passer par ce que souhaitait le Parti communiste. Il n'en était pas question. Qu'il s'agisse de l'Europe, évidemment, qui était quand même un des très grands sujets de François Mitterrand, qu'il s'agisse de l'Alliance Atlantique, qu'il s'agisse des institutions, pourtant que Dieu sait que François Mitterrand en avait été le procureur. Mais il en a été le bénéficiaire.
Voilà, coup d'État, finalement, il s'en est accommodé
comme il l'avait écrit. Non seulement il s'en est accommodé, mais je dirais qu'il s'en est accommodé avec volupté.
Alors, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi fait-il tout ça aujourd'hui? C'est pour prendre le pouvoir sur la gauche ou est-ce qu'il croit vraiment qu'il peut renverser la table aux législatives? C'est réaliste ou pas que
Alors,
ça
il veut... Pour lui, c'est une revanche formidable aussi, hein. Parce que au sein du Parti Socialiste, il a toujours été ultra-minoritaire et pas assez considéré, selon lui. On sait très bien ce qui s'est passé entre lui et François Hollande, qui a été quand même très violent. Et aujourd'hui, il a une revanche. Il a le Parti Socialiste à ses pieds. Qui aurait imaginé ça il y a 20 ans? Donc, pour lui, c'est certainement un moment de grande espérance. Est-ce qu'il croit vraiment qu'il peut gagner les élections législatives? C'est possible qu'il le croie. Moi, je ne le crois pas, mais je ne dis pas il ne peut pas, parce qu'il ne faut jamais dire il ne peut pas en politique, ça serait stupide. Mais disons que je considère qu'ils ne sont pas favoris pour gagner les élections législatives. Lui, peut-être qu'il y croit vraiment, parce que bah, d'une part, il vient de réussir quelque chose. Bon, il est en plus... Il a, au fond, Jean-Luc Mélenchon, il a envie d'entrer parmi ceux qui impriment une trace dans l'histoire politique. Je ne dis pas dans l'histoire tout court, il ne faut pas exagérer, mais dans l'histoire politique. Et il se compare sans cesse avec François Mitterrand. Et donc,
pour qui il a d'ailleurs une admiration sans borne.
Absolument, mais qui aurait été très mécontent de tout ce qu'il propose en matière internationale, furieux de ce qu'il a pu dire à propos de Poutine, parce que c'est vraiment pas du tout ni ce que disait, ni ce que faisait François Mitterrand, et qui serait pas d'accord avec lui sur les institutions, mais qui ne serait pas d'accord non plus sur quelque chose dont je suis toujours, enfin, dont je suis étonné que ça n'était pas plus relevé et souligné dans la presse, qui est que une originalité de cet accord. Et ça ne s'est jamais produit dans l'histoire politique de la France.
Alors dites-nous.
Y compris 5e, 4e, 3e. C'est qu'il y a candidature unique au premier tour. Ce qui veut dire que Jean-Luc Mélenchon a la main sur toutes les institutions. Il vient, toutes les investitures, il vient d'ailleurs de le démontrer. Et ce qui lui permet d'organiser, ce qui est le cas, une véritable hégémonie. Et avant, au premier tour, socialistes, communistes, quelquefois des dissidents, trotskistes, se confrontaient. Puis au deuxième tour, ils se rassemblaient. C'était seul. Là, c'est autre chose. C'est candidature unique et ça crée un rapport de force extrêmement différent.
70 circonscriptions pour le Parti Socialiste, dont une vingtaine de gagnables. Alors bien sûr, on va nous dire qu'il n'avait déjà que 26 députés à peu près à l'Assemblée, oui. Mais c'est vrai que 70 candidatures seulement, ça ne fait pas beaucoup pour le PS.
Surtout, j'ai calculé que les socialistes, qui la dernière fois avaient quand même plus de 400 candidats, il y a 5 ans, les socialistes ne seront présents que dans moins de 15% des circonscriptions.
On a entendu que ça n'allait pas aller sans mal, d'ailleurs. C'est... Il va y avoir des candidatures dissidentes, ça c'est sûr.
Forcément, mais il y a des départements dans lesquels il n'y a pas de candidat socialiste, y compris des départements ancrés dans la gauche socialiste depuis des décennies. Évidemment que ça pose des problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un type de rapport entre Jean-Luc Mélenchon et ses alliés qui est très différent, parce que c'est une forme d'ascendant absolument incroyable. Et le Parti Socialiste, je reconnais que s'il s'était présenté contre les Insoumis pour le premier tour, quitte à se mettre d'accord pour le deuxième, aurait évidemment essuyé une déroute. Il ne faut pas dire le contraire, ça serait hypocrite. Mais peut-être que pour la suite des choses, ils auraient quand même eu raison. Parce que quitte à être marginalisé, autant de l'être sous ses propres couleurs que sur l'autorité et les couleurs d'un autre.
François Hollande dit que c'est la disparition du PS.
C'est un risque. C'est pas une certitude. Le PS, hein, il a ressuscité en 1920, il a ressuscité en 1945, il a ressuscité en 1971. Peut-être qu'il ressuscitera une quatrième fois, j'en sais rien. Bon, ce qui est certain, c'est que avec François Hollande et autour d'autres, il va certainement y avoir des tentatives pour essayer d'imaginer une nouvelle formation ou un nouveau mouvement de gauche réformiste, bien sûr. Est-ce qu'il est sûr que le Parti Socialiste disparaisse? Peut-être pas. Disons-le. Ça va dépendre du résultat des élections législatives. Bon, si par hypothèse, Jean-Luc Mélenchon l'emportait, que seraient les socialistes dans son gouvernement et dans sa majorité? Ils joueraient le rôle que jouaient les radicaux de gauche avant, quand François Mitterrand était le leader. S'il est battu, les socialistes peuvent espérer revenir à la surface. Je ne dis pas glorieusement, hein, mais revenir à la surface.
Surtout qu'ils sont quand même très présents au niveau local.
Mais bien entendu.
Ça, c'est une réalité.
Alors, plus que les Insoumis.
Bien plus. Alors, on parlera, Alain Duhamel, tout à l'heure, du reste de l'échiquier politique, notamment de la Macronie. Mais d'abord, ce mix mis en onde par Flora Bernard, avec pour commencer, eh bien, cette OPA de Jean-Luc Mélenchon sur le 1er mai.
Le 3 mai prochain, à la mémoire du Front populaire, nous aurons signé, nous aurons la nouvelle Union populaire et dans 5 semaines, la victoire.
De l'art de transformer une manifestation du 1er mai en meeting pour les législatives. Jean-Luc Mélenchon, qui rêve de Matignon, convie la gauche à négocier au siège de la France insoumise. Et rien que ça, c'est déjà un exploit.
pendant 10 ans, on ne s'est pas parlé.
Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.
Un espoir se lève et nous, on tâche d'être à la hauteur.
Les écologistes premiers à signer pour la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la NUPES. Au Parlement européen, les Verts des autres pays s'en étranglent.
Désobéir à l'état de droit, c'est ce que nous, les écologistes européens, reprochons à Orban, à la Pologne.
Après les Verts lundi, mariage avec les communistes mardi. Alors, jours heureux, Fabien Roussel ?
C'est un accord important.
Mais là, le panier de la mariée n'est plus tout à fait le même. Exit le nucléaire, le sujet qui fâche.
Nous acceptons les différences qu'il y a parmi nous pour que chaque force politique puisse continuer de les défendre parallèlement.
Un accord à la carte, électoral, mais avec les socialistes, c'est encore une autre histoire. Manuel Bompard, négociateur en chef de la France insoumise.
Honnêtement, le Parti socialiste peine à intégrer un peu le résultat qui a été le sien à l'élection présidentielle.
Encore une fois, soyez patients, c'est une discussion longue.
Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste.
On croit à ce que l'on fait, mais il y a des conditions à cela.
Des conditions à cet accord qui, pour certains, ne posent pas de problème. Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis.
Depuis quand se rassembler et se soumettre ?
Certains approuvent, d'autres non. Le maire du Mans, Stéphane Le Foll.
Si ce Parti Socialiste continue à être comme il est aujourd'hui avec Olivier Faure, et vous êtes d'accord avec moi, sinon vous partez, eh bien je partirai.
Que nous ne soyons pas la gauche la plus bête du monde, ce que nous avons souvent été, nous ne sommes pas irréconciliables avec nos nouveaux partenaires.
Des mariages à gauche et un possible enterrement, celui du PS. Dans la majorité, condoléances plus ou moins sincères de la part de François Bayrou.
Ce qui s'est passé là est un événement extrêmement triste pour beaucoup de Français.
Le cimetière des éléphants, plutôt une bonne affaire pour La République En Marche. En attendant, Emmanuel Macron fait durer le plaisir.
Le mandat du président de la République court jusqu'au 13 mai à minuit.
Gabriel Attal, toujours porte-parole du gouvernement.
Le gouvernement Castex restera en place jusqu'à la fin de ce premier mandat d'Emmanuel Macron.
Et la droite dans tout ça, eh bien, elle n'a toujours pas digéré les ralliements de ses anciens membres à la Macronie. D'ailleurs, les gilets jaunes, à qui la faute, Christian Jacob ?
Édouard Philippe, il a mis le feu sur tous les ronds-points de France.
Et à l'extrême droite, une candidature pour les législatives, Éric Zemmour ?
J'hésite encore. Est-ce que je pourrais, en me présentant dans une circonscription, aider tous mes camarades qui sont sur le pont ?
Tous ces quoi ?
Tous mes camarades.
En voilà un drôle de vocabulaire de gauchiste.
Mon bonapartisme me pousse à me présenter.
Jordan Bardella, le président du RN.
S'il hésite, c'est parce qu'il sait que lui-même ne pourra ni se qualifier au second tour, ni espérer être député à l'Assemblée nationale.
Il y a ceux qui se lancent, ceux qui rempilent et ceux qui renoncent.
J'ai décidé de ne pas me représenter aux prochaines élections législatives.
Vous avez bien sûr reconnu Jean Lassalle.
C'est pas que je n'aime plus la politique, je crois que je l'ai jamais autant aimé. Mais je suis persuadé que ma lutte, je dois la mener maintenant de manière différente.
Si même les anciens n'y croient plus. Et encore un grand merci à Flora Bernard. Une semaine en France, toujours en compagnie du journaliste, éditorialiste, débatteur, chroniqueur, intervieweur Alain Duhamel, observateur de la vie politique française depuis bien longtemps. On en vient à Emmanuel Macron. La cérémonie d'investiture aura lieu demain en présence de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, je crois bien. Vous lui avez consacré un livre à Emmanuel Macron. Son titre, Emmanuel, le hardi. C'est vrai que devenir président à 39 ans, quand on n'a jamais été élu auparavant, c'était déjà un exploit, mais être réélu 5 ans plus tard dans les conditions que l'on sait, avec les crises que l'on a connues, c'est quoi Alain Duhamel ? C'est une prouesse ? C'est du génie ?
Du génie, il ne faut pas exagérer. Une prouesse, oui, c'est une prouesse politique, puisque personne n'y était jamais arrivé. Donc, il s'est comporté globalement assez comme je l'imaginais dans mon livre, en fait.
Vous le comparez souvent à Bonaparte.
Oui, enfin, en expliquant
pas pour
que...
tout. Hein.
Non, mais surtout en expliquant que ça n'est pas le même niveau. Faut pas... Il est pas comparable, et son œuvre n'est pas comparable à celle que le premier consul a fait en 5 ans. Ce que personne dans l'histoire de France n'a été capable de faire. Il n'y a jamais eu autant de réformes, et surtout autant de réformes intelligentes qu'en 5 ans sous Bonaparte.
Bon, mais vous soulignez les traits de caractère communs, rupture,
non, mais
ambition,
qu'il soit,
autorité.
Qu'il soit dans le sillage bonapartiste, oui, c'est ce que je crois. Et je dois dire que sa façon d'exercer le pouvoir, ne me donne pas tort. Et que sa façon de prendre lui-même les décisions, c'est typiquement bonapartiste. C'est typiquement ce que faisait le premier consul, qui Bon, disons qui était particulièrement inspiré pendant ces 5 années de premier consulat.
Pouvoir très solitaire, donc, d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous diriez pouvoir autoritaire aussi, d'une certaine façon ?
Autoritaire, il est démocratique. D'ailleurs, on le voit bien avec les élections. Mais heureusement, d'ailleurs. Il est démocratique, mais qu'il soit de tempérament autoritaire, oui, il est de tempérament autoritaire, bien sûr. Il adore prendre des décisions. Bon, il n'est pas le seul, Nicolas Sarkozy aussi adorait prendre des décisions. Pas forcément les mêmes, mais c'est autre chose. Mais il aime prendre les décisions. Il consulte, mais enfin, il réfléchit par lui-même. Et puis il opte, bien ou mal, ça dépend des moments, ça dépend des sujets. Enfin, c'est quelqu'un qui aime ça, oui. Il n'y a pas tellement de... Enfin, tous les présidents ont eu de l'autorité, et tous les présidents, avec des styles différents, ont tous été autoritaires. C'est d'ailleurs dans la nature de la Ve République, qui est une République qui privilégie l'exécutif. Donc, quand on privilégie l'exécutif sur le législatif, c'est quand même qu'il y a une forme d'autorité. Enfin, d'autoritarisme même. Donc, autoritarisme, je me rappelle sous le général de Gaulle, enfin, l'autoritarisme sous le général de Gaulle, c'était quand même pas une plaisanterie. C'était toute la société qui était plus ou moins au garde-à-vous, quand même. On a oublié ça. Dans les médias, c'était une horreur. Bon, Emmanuel Macron est quand même, heureusement, plus moderne que ça. Mais bien sûr qu'il a une dimension autoritaire, oui.
Alors là, il est en train d'essayer de trouver la perle rare, le Premier ministre qui va pouvoir s'occuper du prochain gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il fait durer le plaisir comme ça ? Pourquoi est-ce que le gouvernement Castex est toujours en place ? Pourquoi ça traîne ?
En tout cas, ça n'est pas à la demande de Jean Castex, parce qu'il ne cache pas du tout qu'il aurait préféré s'en aller dès le lendemain de la réélection.
Et puis tous les ministres avaient cru que c'était fini.
Oui, oui.
Ils sont venus se prendre en photo.
Parce que ça ressemble plus à la tradition. Alors d'abord, là aussi, c'est une forme de bonapartisme ou une forme de narcissisme, comme vous voulez, ou les deux d'ailleurs, c'est pas incompatible. Emmanuel Macron, il veut choisir son moment. Il y a certainement un côté tactique qui était de laisser s'avancer la gauche, faire observer que la gauche avait des contradictions et que la partie de la gauche qui prenait le pouvoir n'était pas la partie de la gauche forcément plus rassurante pour toute une partie de l'électorat, soit de centre-gauche, soit de centre-droit. Il y a certainement ça. Il y a aussi le fait que il a envie de prendre son temps et de faire les choses au moment où il décide de le faire. Il y a aussi le fait qu'il veut pas mal renouveler le gouvernement et que ça n'est pas si facile de renouveler le gouvernement et qu'en particulier ce qu'il a réussi, plus ou moins bien selon les personnes, la dernière fois, mais qu'il a réussi, qui était de faire venir des gens de l'extérieur, comme avait fait le général de Gaulle, hein, eh ben, c'est très dur.
En tout cas, la tentation existe toujours. Du côté de LR, on sent bien que certains sont toujours tentés. Du côté de la gauche, enfin, Manuel Valls, alors je ne sais pas s'il faut encore le classer dans cette catégorie-là, mais il va être candidat.
Bah, lui, il s'y classe.
Il s'y classe, voilà. La tentation existe toujours. Bon, toujours est-il que Emmanuel Macron a effectivement, vous le dites, laissé la gauche occuper le terrain cette semaine, oui. Ce qui n'a pas empêché les négociations de se poursuivre, puisque hier après-midi, Richard Ferrand, François Bayrou et Édouard Philippe sont apparus tout sourire pour annoncer une nouvelle alliance baptisée Ensemble. On les écoute, Simon Le Baron était présent.
Nous avons quand même passé du bon moment. En tout cas, les choses se sont déroulées dans la bonne humeur.
Ce sont les négociations qui sont passées dans le meilleur climat que j'ai jamais rencontré.
Et je veux saluer François et Richard, qui ont été remarquables dans cette discussion.
Voilà, elle est unie, la majorité. Il n'y aura, assure-t-il, aucune candidature dissidente. Unie, mais pas uniforme, précise Édouard Philippe.
Nous sommes ensemble parce que nous ne sommes pas identiques. Si nous étions identiques, nous ne nous appellerions pas ensemble. Nous serions un seul.
Ensemble, avec un point d'exclamation, une confédération. Ce n'est pas le mouvement unitaire évoqué par le président au soir du premier tour, mais c'est déjà un bon moyen de railler la gauche et son alliance.
Nous, ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous affirmons, c'est que nous ne cédons pas nos convictions à quelques circonscriptions.
Stanislas Guérini, le patron d'En Marche ou donc de Renaissance. Alors, pas une affaire de circonscription. Rassurez-nous, François Bayrou, tout le monde est satisfait des négociations.
La réponse à votre question est oui. On n'aurait pas signé autrement.
Pas une question comptable, donc, mais un peu quand même. 58 candidats pour Horizon, 101 à 110 pour le Modem, 400 pour le parti présidentiel, ce qui doit permettre à Emmanuel Macron d'obtenir la majorité absolue sans rien devoir à ses alliés.
Voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de la Macronie. Renaissance à la place d'En Marche, ça a une importance ou pas ?
Bon, d'abord, il adore le mot. Ensuite, le groupe parlementaire européen s'appelle Renaissance. Ça oui. s'appelle Renew en anglais, mais enfin Renew. Mais enfin, c'est Renaissance. Et puis, il a dit, est-ce qu'il y arrivera ? Ça, je n'en sais rien, on verra bien. Mais il a dit qu'il essayait de transformer un second quinquennat en quelque chose de différent du premier, y compris dans les méthodes. Bon, enfin, c'est ce qu'il a dit, hein, on verra bien. On ne peut pas encore le savoir, mais enfin, on verra bien. Mais donc, ce n'est pas incohérent. Ce qui est vrai, c'est que l'accord auquel ils sont parvenus ne s'est pas fait sans tension et sans rivalité, évidemment. D'ailleurs, ça ne peut pas être différent. Mais qu'au bout du compte, les trois sont vraiment satisfaits du résultat. Je pense qu'à gauche, ils aimeraient bien pouvoir dire qu'ils sont tous satisfaits du résultat. Là, ils le sont. Bah, il se trouve que moi, j'ai vu dans les 48 heures, les 3 jours, les 3 derniers jours, deux des protagonistes en question, ils étaient vraiment contents. Bon, donc, alors, quand ils disent qu'ils se sont amusés, ça veut dire, que veut dire s'amuser en politique ?
Ils ne se sont pas tapés dessus.
Et ils ont trouvé une solution qui est plus intelligente que celle qui était proposée au départ. Parce que c'est vrai que l'idée d'Emmanuel Macron de faire un parti unique avec des gens tellement différents, etc. C'était, d'abord, ça n'aurait jamais marché. Mais surtout, ça aurait été inefficace. Parce que si l'idée, comme c'est son idée, est d'essayer d'attirer sur ses deux ailes pour qu'il y ait un centre vraiment ferme, organisé, etc., un parti unique, c'était un échec assuré. Bon, là, ils font l'UDF du centre. Bon, et d'ailleurs, l'UDF du centre, c'est un peu un pléonasme.
Effectivement.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
On en arrive à la chronique « Jeu de pouvoir » de Vincent Martini, professeur de sciences politiques et chroniqueur à l'Hebdo Le 1. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Alors ce soir, vous allez nous parler des alliances qui se forment de toutes parts pour ces élections législatives, on vient d'en parler, et qui sont pour vous des coalitions gazeuses.
Mais en effet Claire, gazeuse, c'est le terme qu'avait employé Jean-Luc Mélenchon dans un entretien O1, justement, en 2017, pour qualifier le mouvement de la France insoumise. Gazeux, au sens d'instable, de transitoire, d'incertain. Et ces trois adjectifs, ça tombe bien, s'appliquent très bien aux deux alliances en cours de formation. D'une part, la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la NUPES, entre la France Insoumise, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Et d'autre part, Ensemble, dont nous venons de parler, la coalition annoncée hier entre La République En Marche, devenue le Parti Renaissance, la formation d'Édouard Philippe Horizon, le Modem, Agir et plusieurs petits partis centristes.
Alors, commençons par le premier de vos adjectifs. Pourquoi serait-elle instable ?
Bien d'abord parce que ce sont des mariages de raison et non pas d'amour. À gauche, il s'agit avant tout de répondre à la volonté d'union des sympathisants, lassés de perdre toutes les élections à cause de l'incapacité de leurs dirigeants à s'entendre. Les 22% de Jean-Luc Mélenchon ont semé un espoir dans le cœur du peuple de gauche, alors qu'on annonçait la mort cérébrale et électorale de cette famille politique voici encore quelques mois. La perspective d'une résurrection, donc, fut-elle pour se contenter d'être la principale force d'opposition au pouvoir actuel, est un moteur puissant, même si cela conduit à mettre d'importantes divergences de fond sous le tapis. Autour d'Emmanuel Macron, c'est un peu différent. Il s'agit de garantir une majorité qui permette au président réélu de gouverner. Quitte à assister au mariage des carpes et des lapins entre les macronistes de gauche, majoritaires en 2017, et toute une galaxie de mouvements de droite qui compte orienter la coalition à leur avantage dans l'avenir.
À l'avenir, c'est donc que tout le monde semble ne penser qu'à cela, comme si la situation actuelle n'était que transitoire.
Bah, c'est exactement ça. Les élections législatives de juin prochain seront des juges de paix bien temporaires et encore, surtout pour les vainqueurs. Du côté de la NUPES, la solidité de la coalition dépendra du score obtenu. Une victoire la stabiliserait, tout comme une défaite honorable qui souderait les groupes parlementaires dans la lutte contre les réformes d'Emmanuel Macron. Mais un échec plus marqué amoindrirait immédiatement l'intérêt d'une union et surtout conduirait à la contestation du leadership de la France insoumise. Dans la majorité présidentielle, les tensions, elles interviendront probablement quoi qu'il arrive, puisque l'enjeu est de savoir ce qu'il adviendra du macronisme après que le président aura terminé son second mandat. En attendant, celui-ci d'ailleurs compte bien tenir en joue tout ce petit monde le plus longtemps possible pour ne pas se laisser imposer sa politique par son ancien Premier ministre Édouard Philippe, dont les ambitions de succéder au chef de l'État sont claires.
Ça veut dire que la période d'incertitude politique n'est pas achevée ?
Ah ben, il faut le craindre, oui. Notre vie politique est plus archipélisée que jamais, à gauche comme au centre et à droite, sans même parler de ce qu'il adviendra à l'extrême droite entre le RN, Reconquête et une frange radicalisée du LR qui serait tentée de les rejoindre. Ce que vont déterminer les élections législatives, c'est la nature du rapport de force au sein de chaque coalition. Du moins, si le scrutin majoritaire n'empêche pas l'expression de ces différences d'opinion. Si l'union est toujours un combat, comme le rappelait mon collègue l'historien Marc Lazare dans un texte publié dans Le Monde hier, sa survie dépendra de la capacité à voir coïncider les intérêts et les circonstances.
Merci beaucoup Vincent Martini. Alain Duhamel, vous êtes d'accord avec ce que dit Vincent Martini ?
Je suis d'accord avec beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une différence quand même de nature entre la coalition de gauche et la coalition macronienne, et que beaucoup d'observateurs, d'ailleurs je ne dis pas ça pour vous puisque vous ne l'avez pas dit, mais beaucoup d'observateurs pensent que le fait d'être réélu sans pouvoir être rééligible depuis la réforme des institutions de 2008, ça amoindrit les pouvoirs. Moi je n'en suis pas du tout persuadé, je pense qu'au contraire ça donne à celui qui est président à ce moment-là, vis-à-vis de ses propres troupes notamment, une liberté supplémentaire, d'autant plus que son successeur, s'il vient de son camp, ce qui quand même statistiquement sera très rare, hein, parce que trois fois de suite du même côté, on a vu ça quand c'était De Gaulle et Pompidou. On ne l'a pas vu depuis. Mais c'est possible. Mais simplement, ça ne pourra pas être contre le président. Le seul qui a réussi à faire ça, c'est Nicolas Sarkozy. Contre Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'il était ministre de Jacques Chirac, ministre d'État, le plus actif, le plus présent des ministres, et que en chaque occasion, il prenait délibérément le contre-pied, et il le disait même à la télévision, le contre-pied du président de la République. Mais c'est un cas unique. Il fallait, là aussi, je dis Emmanuel Le Hardy, à ce moment-là, on aurait pu dire aussi Nicolas Le Hardy.
Alors Nicolas Le Hardy qui est allé voir Emmanuel Macron cette semaine au grand dam du reste de LR qui se réunit demain pour préparer ses législatives. Marine Le Pen, on l'a plus du tout entendu. Enfin, il y a eu cette vidéo le week-end dernier.
D'abord, elle est partie en vacances.
Hein, bon.
Mais ce qui n'est pas banal quand même du leader d'une formation importante et s'étant qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle et ayant à diriger une campagne législative quand même. Enfin, j'imagine pas François Mitterrand ou Jacques Chirac s'en allant en vacances dans ces cas-là. Bon, et là, on a l'impression, y compris en écoutant Bardella et les autres, on a l'impression que, d'une part, ils ne croient pas du tout qu'ils puissent gagner les législatives, et d'autre part, qu'ils s'attendent...
Elle n'affiche pas de grandes ambitions,
qui s'attendent à des résultats législatifs bien plus mauvais que leurs résultats présidentiels. Et c'est vrai que pour eux, ça n'est pas très mobilisateur.
Vincent Martini.
Oui, c'est comme s'ils avaient intégré, finalement, la logique de la Ve République, qui est... très destructrice pour les partis minoritaires, mais ce qui va quand même poser un problème démocratique, puisque quelqu'un qui aura fait 42 et quelques pourcents aux élections présidentielles risque de se retrouver avec un groupe parlementaire peut-être de 15, 20, 30 ou même 50 députés.
C'est pour ça que moi je suis tout à fait, d'ailleurs depuis longtemps, pour une dose de proportionnelle significative, parce que ça n'est pas démocratique. Mais c'est vrai pour l'extrême droite, c'est vrai aussi pour l'extrême gauche. Ça n'est pas démocratique, il n'est pas une représentation plus importante. Et il faut que le Parlement redevienne un lieu de débat, de discussion et de critique. Ce que je crois, il va de toute façon redevenir cette fois-ci. Mais ça serait mieux si c'était avec une représentation plus équitable.
Voilà, je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Dans un instant, Alain Duhamel, on va parler de vous, de votre histoire et forcément un peu de musique. Papa, 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 papa extrait de La Belle Hélène de Jacques Offenbach, sélectionné pour vous par Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servagen.
Toujours en compagnie du journaliste Alain Duhamel, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur d'une vingtaine, même plus que ça, d'essais sur la vie politique, mais aussi d'un ouvrage plus personnel, Journal d'un observateur, publié en 2018 aux éditions de l'Observatoire. On y apprend beaucoup de choses, notamment que vous êtes né le 31 mai 40, pas une des périodes les plus glorieuses de l'histoire de France.
Une des pires.
Et voilà, vous avez connu la guerre, vous étiez petit, mais vous en souvenez. Votre père était médecin, votre grand-père paternel président de tribunal et... écrivez-vous discrètement maréchaliste. Du côté de votre mère, on était dans la résistance. Père catholique, mère laïque. Et vous, vous êtes protestant. Alors, on va pas s'y arrêter parce qu'il faudrait une émission entière pour ça. Mais toujours est-il que votre mariage s'est fait au temple protestant avec France, chef d'orchestre. C'est pour elle hein, que j'ai mis ça.
D'autant plus qu'elle l'a dirigé.
Voilà, que j'ai mis Jacques Offenbach. Tout petit déjà, la politique vous intéressait, Alain Duhamel. Chez vous, on lisait Le Figaro. Et du haut de vos 13 ans, vous avez dit, on va lire Le Monde. Et vous avez imposé le Monde
en
à
plus.
La maison. En plus, bah oui,
parce
non,
que
pas à la place.
J'ai toujours été très démocrate.
Pas à la place. Une passion aussi pour la lecture, depuis toujours, depuis tout petit, qui s'est renforcée encore quand vous avez eu un accident grave. Je crois que c'est vers l'âge de 17 ans.
Oui.
Qui vous a obligé à garder la chambre. Et là, vous avez dévoré les livres une fois de plus. Vous êtes entré à Sciences Po, vous avez très vite fait un stage au Monde. Premier papier dans Le Monde en 1963. Ça veut dire que ça fait... Voilà, ça...
Il y a même eu un petit même articulé avant... en 60.
Là, dites-moi.
Oui, il y a eu des petites choses.
Voilà, ça fait donc plus de 60 ans que vous écrivez. Vous avez tout fait, presse écrite, radio, télé. Vous aimez ça, ce métier?
Ah bah, c'est pas que j'aime, c'est que j'adore. Et mon sujet me passionne. Bon, j'aime la politique au sens large. Hein. J'aime autant la politique étrangère que la politique intérieure. Et j'aime autant la politique économique que la politique sociale. Et je trouve que, quand on se passionne pour l'évolution de notre société, ça se renouvelle sans arrêt. C'est ce qui est extraordinaire. C'est que j'aurais connu les quatre figures les plus opposées, les plus diverses et les plus imprévisibles. Et que franchement, ça m'a passionné et que ça me passionne encore. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue à le faire. C'est pas que je sois obligé de le faire, c'est que je...
Vous êtes éditorialiste sur BFM TV, on va quand
oui,
même
j'aime le
faire.
Dire.
Voilà, vous continuez. Vous avez participé à des tas d'émissions prestigieuses, des émissions, il y a eu Cartes sur table, Armes égales, L'heure de vérité, j'ai bien compris que c'était votre bébé, l'heure de vérité.
C'est la seule que j'ai imaginée moi-même. Les autres, j'y ai participé, enfin j'avais même un rôle relativement important, mais c'est celle-là, je l'ai imaginée, oui.
Alors, à votre actif, il y a plusieurs de vos questions posées à des hommes politiques qui ont fait date. On a entendu le petit extrait tout à l'heure de Nicolas Sarkozy. Autre question qui est restée dans les annales. En 1981, je crois, lors de l'émission Cartes sur table avant la présidentielle, vous interrogez François Mitterrand et vous posez une ultime question sur la peine de mort.
Monsieur Mitterrand, ça fait 1h20 que nous sommes ensemble. Nous avons donc chacun une dernière question à vous poser. La mienne, c'est celle-ci. Il y a actuellement 5 condamnés à mort dans des cellules. Je voudrais savoir si vous étiez élu président de la République, si vous les gracieriez.
Pas plus sur cette question que sur les autres, je ne cacherai ma pensée, dans ma conscience. Je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. L'opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort.
Alain Duhamel, il paraît que tout le staff de François Mitterrand vous est tombé dessus après l'interview.
Oui, mais que Mitterrand est descendu de l'estrade, m'a mis la main à l'épaule en me disant que c'était une très bonne idée d'avoir terminé par ça. Vous savez, les entourages, c'est souvent assez nuisible. C'est une question qui a fait date, parce que ça a donné à François Mitterrand, je ne dis pas du tout que c'est ça qui a fait la différence, bien entendu, mais ça a donné à François Mitterrand une certaine respectabilité auprès des intellectuels et de la bourgeoisie libérale qu'il n'avait pas avant. Ne serait-ce que parce que dans son histoire, quand il avait été garde des Sceaux pendant la guerre d'Algérie, il avait dû prendre des décisions qui en fait étaient des condamnations à mort. Et là, il l'a fait... Bon, il se doutait bien, puisque c'était un sujet de débat à cette époque, il se doutait bien que quelque chose viendrait. Simplement, il pensait que ça ne viendrait, et il me l'a dit après, et que ça ne viendrait plus dans l'émission, et même ça l'agaçait un peu. Et puis, bon, bah, c'est venu, et effectivement, je pense que ça a impressionné. Sa réponse a impressionné.
Voilà, comme quoi la sincérité, ça peut être effectivement quelque chose d'important en politique aussi. Quelle distance faut-il garder avec les politiques quand on est journaliste ?
Je pense que je pense qu'il faut les voir et s'exprimer et essayer d'approfondir les choses avec eux. Je pense que si on ne les approche pas, si on ne les connaît pas, si on ne discute pas avec eux, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas ou qu'on n'apprend pas, tout simplement. Pour le reste, il ne faut pas en être dépendant. Moi j'ai eu, c'est l'avantage de mon âge, je peux dire ça sans forfanterie.
J'ai un jeune homme de 82 ans.
Ben voilà, et j'ai eu des rapports proches, quelquefois presque amicaux, ce qui est extrêmement dangereux d'ailleurs, notamment avec François Mitterrand, qui ne m'ont jamais... je veux dire que ça n'était jamais en rien une emprise sur moi. C'était un avantage que je me donnais. Bon, je me rappelle que quand, par exemple, je voyais, quand Jacques Chirac était président... Et qu'il allait avoir un conseil européen et qu'il est arrivé plusieurs fois que je le vois avant, il savait qu'on n'avait pas du tout les mêmes idées sur l'Europe, et que j'étais beaucoup plus allant que lui. Il me confiait quels étaient ses objectifs pour le conseil européen qui avait lieu la semaine suivante, par exemple, et il me disait comme ça, vous pourrez vérifier si je les ai atteints ou pas. Et c'était un avantage formidable de savoir à l'avance sur quoi il allait travailler. Je lui jurais comme à tous, que je ne trahirais pas et que je ne dirais pas ça avant que ça se produise. Mais au moment où ça se produisait, bah disons que j'étais bien armé.
Ça fait donc 60 ans que vous fréquentez les politiques. Vous les avez vus changer ?
Oui, bien sûr. Bon, je les ai vus à certains moments rajeunir, hein, ça c'est par génération, se féminiser insuffisamment, enfin se féminiser. Dans les années 70-80, le niveau moyen était quand même assez nettement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Alors je sais très bien que ça fait vieux monsieur de dire ça, mais je crois que c'est la vérité. Je crois que le niveau politique a baissé.
Alors si vous voulez avoir des anecdotes sur le monde politique, je vous conseille le journal d'un observateur aux éditions de l'Observatoire, Alain Duhamel, Emmanuel Le Hardy, ça c'est sur Nicolas Sarkozy, sur Emmanuel Macron. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Les deux livres sont disponibles en poche. Merci mille fois d'être venu ce soir.
Merci.